Des choses extraordinaires depuis que le monde existe. Cultivateur de champignons géants. Hello Lilou, tu te souviens que dans une précédente émission, nous avions parlé de ces merveilleux organismes que sont les champignons, et notamment des champignons qui font pleuvoir. Eh bien, aujourd'hui, nous serons plus terre à terre puisque nous allons nous intéresser à la culture des champignons, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit des champignons les plus grands du monde. Tiens, sais-tu par exemple quelle est la taille de ces champignons qui sont les plus grands du monde ?
Eh bien non, je ne sais pas. Peut-être haut comme un cèpe ? Car je ne pense pas qu'il y ait des champignons plus hauts que nos cèpes. Et d'abord, ces champignons sont-ils comestibles ?
Allez, je te mets un peu sur la voie, tout en t'embrouillant. Oui, ils sont comestibles, et tellement qu'ils ne sont élevés que pour cela. Et du reste, ne peuvent survivre que cultivés.
On ne les trouve pas dans la nature ? Alors, ce ne sont pas des cèpes.
Non, ce ne sont pas des cèpes. Et du reste, ils sont bien plus gros.
Gros ? Gros, genre comment ? Haut comme jusqu'à ma taille ?
Pas exactement.
Plus haut ?
Oui.
Beaucoup plus haut ?
Oui.
Alors, haut comme moi ?
Pas exactement.
Tu veux dire plus haut ? Comme toi ? Plus haut encore ? Comme la maison ?
Eh bien oui, on en a trouvé qui font 3 mètres de haut. En général, ils atteignent la taille du mètre.
Je n'en ai jamais entendu parler. Ce doit être encore des OCM, organismes champignonesquement modifiés.
OCM, bien trouvé. Eh bien non, ils sont tout ce qu'il y a de plus naturel. Et je vais même te dire que c'est sans doute la culture la plus ancienne au monde.
Du temps d'Ayla.
Ayla.
Eh bien oui, Ayla. Tu sais bien la saga que j'adore sur les hommes préhistoriques, les enfants de la Terre.
Ah oui, je me rappelle combien tu étais passionné par cette histoire de l'aube de l'humanité. Je me demande même si tu ne t'es pas identifié à Ayla par moment. L'histoire de Ayla, c'est il y a 30 000 ans environ, à la veille, si l'on peut dire, en rapport avec l'âge de l'humanité, de la révolution du néolithique et donc de l'invention de l'agriculture par l'homme il y a 10 000 ans. Eh bien, si je te dis que l'homme n'était même pas sur Terre, que cette culture de champignons se pratiquait déjà.
Bien avant l'homme, par des extraterrestres, des envahisseurs qui avaient pris la Terre comme une serre à champignons. Et après, ils ont inventé l'homme pour les cultiver afin qu'ils se nourrissent sur le dos des esclaves humains. Mais heureusement...
Oula, Lilou, tout doux. Quelle imagination débridée. On dirait un cheval emballé qui fonce tout droit sur les sabots ailés de ses inventions. Eh bien non, foin d'extraterrestres.
Alors là, je ne comprends plus. Tu me parles de champignons, puis de cheval, et maintenant de foin. Bon, je sais que les chevaux mangent du foin, mais les champignons, c'est pour les nourrir. Avant que le foin existe, les chevaux mangeaient des champignons géants.
Allez, Lilou, si tu me laisses parler, je vais tout te dire.
Ah, je sais, c'était au temps des Grecs. Les cyclopes, ces géants avec un seul œil, que Ulysse...
Allez, Lilou, on ne va pas s'embarquer dans un nouvel odyssée. Donne-moi ta langue au chat et je te dirai tout. Ce qui veut dire que la prochaine fois, ce sera à ton tour de me raconter une chose extraordinaire depuis que le monde existe.
Langue au chat, grand-père.
Ces champignons géants sont cultivés par des petites bestioles qui vivent la plupart du temps sous la terre. Comme chez nous vivent les fourmis, les termites, celles que l'on appelle les Macrothermitinae, vivent dans des pays plus chauds et cultivent une espèce de champignon que l'on appelle des Termitomys depuis 7 millions d'années et même 25 millions d'années pour de récentes découvertes faites dans le sud-ouest de la Tanzanie. L'ampleur du phénomène est telle que l'on a retrouvé ce que des géologues ont appelé des jardins de champignons.
25 millions d'années ? Mais on nous a toujours dit que c'était l'homme qui avait inventé l'agriculture.
Eh bien, tu vois Lilou, pas tout à fait. La nature fait des choses bien plus merveilleuses et nous ferions bien de nous en inspirer. Il semble même que cette adaptation écologique soit la raison même qui, bien plus tard, a permis à l'homme lui aussi de passer de l'Afrique à l'Asie sur les pas des termites des millions d'années après. L'invention de l'agriculture. Eh bien, dans cette migration, en effet, les termites avaient précédé les hommes grâce à cette fabuleuse invention de culture de champignons. Parlons donc de ces termites. Ce sont des animaux bien étonnants que l'on a classé depuis longtemps comme ennemis de l'homme, parce que c'est vrai, quand elles s'y mettent avec leur colonie qui atteint des millions d'individus, elles peuvent commettre des ravages. Mais en réalité, on les reconsidère depuis peu, quand en réalité elles rendent d'immenses services à la biodiversité, mais aussi à l'agriculture, ce sont de véritables ingénieurs des sols. Et si l'homme était un peu moins bête, il coopérerait avec elles pour les immenses services qu'elles pourraient lui rendre. D'abord, l'histoire de ces champignons. Eh bien, figure-toi que les termites les cultivent avec plusieurs objectifs. D'abord, tu sais bien qu'on incrimine les termites de détruire les charpentes ou tout ce qui est de bois pour se nourrir. En réalité, les termites ne peuvent pas digérer le bois. En fait, elles ne peuvent pas digérer les éléments du bois que sont la cellulose et la lignine. Alors, comment font-elles? Elles font faire le boulot, ici la digestion de ces matières, par...
les champignons! Mais alors c'est dingue! Elles ne se nourrissent que d'un truc qu'elles ne peuvent pas digérer. Alors, elles cultivent des champignons pour en assurer la digestion.
Eh oui, et on pourrait même se demander si du coup, elles ne ravagent pas les bois que pour pouvoir nourrir les champignons qu'elles cultivent.
Et après, elles mangent les champignons? C'est leurs champignons de Paris à elles.
Mais elles font plus que ça avec leurs champignons. D'abord, c'est vrai dans l'aménagement douillet de leurs champignonnières, qui se trouve dans le bas de leur habitat, croissent les meules à champignons constituées de matières végétales mâchées sur lesquelles se développe le mycélium du champignon dont elles se délectent.
Mais grand-père, tu me parles des champignons les plus grands du monde. S'ils sont élevés dans les termitières, ils doivent être microscopiques.
Eh bien, pas exactement, car ces champignons ont une autre utilité en surface. D'abord, sais-tu que les termitières sont des habitats géants de plusieurs mètres de haut et qui abritent des millions d'individus. Par exemple, on étudie aujourd'hui ces structures pour comprendre pourquoi la température dans la termitière est constante, ce qui nous servirait bien pour aménager climatiquement nos gratte-ciels.
En évitant d'installer des climatisations qui ont un impact gigantesque sur les réchauffements terrestres, on appellerait cela des termitisations.
Oui, bonne idée. Cela pourrait entrer dans le dictionnaire. Termitisation, synonyme de climatisation. Mais alors, tu me diras, pourquoi ces termites cultivent-elles des champignons géants?
Oui, pourquoi?
Alors cela, c'est quelque chose d'assez extraordinaire sur lequel on a encore à apprendre. Tu sais que ce que nous appelons champignons, comme par exemple le cep dont tu parlais, ce n'est que l'organe reproducteur du champignon lui-même. Et tu sais aussi que, bien que l'énergie d'éjection des spores du chapeau est colossale, on l'a bien vu dans l'émission des champignons qui font pleuvoir, des millions de jets, en réalité, les spores tombent à proximité, car l'énergie d'expulsion ne se déploie que dans un temps infime, quelques fractions de seconde, si bien que les spores ne tombent que sous l'ombrelle formée par le chapeau si le vent ne les emporte au loin. Donc en quelque sorte, trop près de la termitière ou infiniment trop loin si le vent l'emporte.
Mais pourquoi trop près ou trop loin comme autant en emporte le vent? Ne me dis pas qu'il s'agit de romances termitières.
Je vais te dire. Comme tu l'as compris, la culture des champignons est indissociable de la vie de la termitière. Et donc, lorsqu'il y a création d'une nouvelle colonie, un essaimage en quelque sorte, les aventurières qui partent vers la création d'un nouvel habitat doivent s'assurer de la pérennité de leur culture de champignons.
Eh bien, il suffit qu'elles prennent des spores dans leur petit panier et qu'elles aillent les planter ailleurs?
Oui, certaines espèces le font. Mais ici, c'est plus subtil, car qui assurerait que ces spores pourraient se cultiver et croître ailleurs? Si tel n'était pas le cas, ce serait toute la colonie qui mourrait. Alors, voilà ce qu'ont inventé ces espèces cultivatrices. En cultivant des champignons géants, elles s'assurent que les spores, portés au loin, mais pas infiniment loin, s'implantent dans le sol et fructifient avant d'émigrer sur cette terre, nouvel Eldorado de leur élevage. Ainsi, nulle crainte de famine, puisque le champignon s'est déjà développé en attendant la migration.
En quelque sorte, une nouvelle version de la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, dans laquelle, plutôt que la fourmi, la termite assurait le rôle principal.